talmudique. Jeudi dernier avait lieu la fête de Pourim, une fête si importante, disent les maîtres du Talmud, que c'est la seule fête qui continuera à exister avec la fête de Kippour après la venue du Messie. Une fête qui commémore l'échec d'Aman, un homme politique de la Perse ancienne qui voulut détruire l'ensemble du peuple juif de son époque. L'histoire est racontée dans le livre d'Esther, que l'on lit à la synagogue, un texte qui a influencé plus d'un, dont Racine qui en a fait une célèbre tragédie. Dans le monde juif, Pourim est une fête qui est l'occasion de s'adonner au théâtre, et en particulier sous une forme appelée Pourimspiel, entre théâtre et carnaval, qui est d'ailleurs entrée en 2015 sur la liste du patrimoine culturel immatériel de la France. Delphine Horviller, bonjour.
Bonjour.
Pourim, ce sont les mots en fête, les mots à la fête, qui littéralement s'éclatent pour ensuite se recomposer et toujours nous surprendre de leur inventivité. Pourim, c'est la fête carnaval du langage et des corps qui ont été déguisés, grimés, masqués et dansent, chantent, écoutent et prient. Mais les mots, s'ils savent réjouir, savent aussi attrister, injurier, blessé, avili, rejeté. Et je lisais ces jours-ci un article dans lequel j'ai senti comme un Pourim à l'envers, une fête qui se retournait en défaite de l'esprit et aussi des corps, si l'on peut dire, car il s'agit de football. Je cite « L'État hébreu a exprimé dimanche son indignation après des insultes visant un joueur israélien en Allemagne lors d'un match de football. Le débat sur la recrudescence de l'antisémitisme dans le pays et en Europe a été relancé vendredi avec un tweet visant un joueur israélien expulsé pendant la rencontre de la deuxième division entre l'Union Berlin et Ingolstadt. Almog Cohen a été visé par un internaute se présentant comme un supporter du club berlinois. Celui-ci a adressé un message antisémite haineux, appelant entre autres le joueur à retourner dans sa chambre à gaz. Le joueur israélien a lui répondu aux insultes sur son compte Twitter en soulignant être fier d'être juif et des valeurs qui lui ont été transmises. L'affaire, continue l'article, préoccupe la Fédération allemande de football. Son vice-président, Rainer Koch, a dénoncé un tweet ignoble et demandé que tout soit fait pour en retracer l'origine. Fin de citation. Justement, c'est de cette origine dont j'aimerais parler avec vous aujourd'hui, Delphine Horviller. Il est extraordinaire que dans un même article concernant le football, l'on trouve ces quatre termes réunis ensemble. Sur fond d'antisémitisme, on découvre un État hébreu, un joueur israélien qui se dit fier d'être juif. Des mots qui constituent le point de départ de vos réflexions sur la question antisémite, un livre paru en janvier dernier aux éditions Grasset, que j'aimerais que nous abordions précisément par la question du langage et du lexique pour essayer d'en préciser et approfondir le sens. Car comme disait Camus, reprenant les mots de son ami le philosophe Brice Parrain, « Mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur de ce monde, car le mensonge est justement la grande misère humaine, c'est pourquoi la grande tâche humaine correspondante sera de ne pas servir le mensonge. » Delphine Horviller.
Oui, c'est tout à fait extraordinaire cet article que vous citez. Je trouve qu'il est incroyablement emblématique du malentendu constant qu'on a autour de ces vocables. On l'a bien perçu ces dernières semaines. Il y a tout un questionnement autour de qui traite l'autre de juif ou de sale juif. On a entendu finalement des mêmes questionnements autour de la notion de sionisme et d'antisionisme. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Qu'est-ce qu'on entend? Comment est-ce qu'on peut interroger ces termes? Et comment ça se fait qu'il y a un tel malaise autour de ces vocables, on a l'impression, autour de nous? Alors, la tradition juive a plein de choses à dire là-dessus, parce qu'effectivement, elle-même revendique dans les textes plein de façons de s'appeler. À différents passages dans le texte, on est appelé des Hébreux, des enfants d'Israël, ou beaucoup plus tard, des Juifs. Et ces mots veulent pas tout à fait dire la même chose.
Alors, Hébreux, pour commencer.
Alors, Hébreux, en fait, pour comprendre ce terme, pour revenir au tout premier d'entre eux, c'est-à-dire à Abraham, le premier qui s'appelle comme ça, c'est un homme qui vient non pas de la ville d'Hébraï ou du pays d'Hébraï, il vient de Ur en Chaldée, donc il vient d'un endroit dont il s'arrache. Il entend un jour cet appel ô combien célèbre, quitte la maison de ton père, va vers le lieu où je t'indiquerai. Il se met en route et c'est dans cette mise en mouvement, dans ce devenir, qu'il devient celui qui passe, celui qui traverse, à savoir la traduction exacte de l'hébreu. Donc l'hébreu, en fait, cette proto-identité dont on se revendique, c'est l'identité de quelqu'un qui se met en mouvement, qui vient d'un ailleurs et qui se met en route vers une terre promise.
Alors qu'Israël,
ça, c'est un nom qui surgit à un moment totalement différent du récit. Les auditeurs le savent sans doute, Israël, c'est l'autre nom de Jacob, mais c'est un nom qui est gagné au détour d'un combat, une nuit près d'une rivière, un moment où Jacob est lui aussi en route. Donc c'est aussi une identité, d'une certaine manière, d'un arrachement. Il quitte sa maison, se met en route, il revient à la maison, et alors qu'il est en chemin, il rencontre cet homme ou cet ange, combat avec lui, et au moment où sa hanche se déboîte, c'est-à-dire qu'il apprend ou il comprend que pour toujours il va boiter, il sera boiteux, eh bien il gagne un nom, Israël, celui qui combat avec Dieu, avec cette ambiguïté, est-ce qu'on combat avec ou contre Dieu? Mais en tout cas, à nouveau, cette identité, c'est une identité qui boite, c'est une identité qui n'est pas une identité stable, qui dit rien de là d'où on vient, mais qui dit pas non plus d'ailleurs quelque chose sur là où on va, mais qui dit qu'on est dans un entre-deux. Ce qui est d'ailleurs extrêmement dérangeant, et on comprend que cette identité, elle pose problème dans un temps où les gens pensent que l'identité, ça a à voir avec la stabilité, avec là d'où je viens, avec ce qui ne va pas changer en moi. Eh ben, l'hébreu, et il dit tout le temps l'inverse. Il dit que nos identités à nous, c'est des identités d'arrachés et de voyageurs. Voilà.
Arrachés, voyageurs et exil, puisque la première fois que le mot juif va apparaître, Yehudi, ce n'est pas en terre juive, ce n'est pas en terre de Yehuda, mais c'est en Perse, Delphine Horviller.
Oui, c'est le nom par excellence de l'exil, puisque le premier qui porte ce nom de Ha-Yehudi, c'est Mordechai, Mardoché, le héros avec Esther de la fête qu'on vient de vivre. Et alors, le mot Yehudi, il apparaît avant, mais quand il apparaît avant, il est toujours là pour définir une identité géographique de la tribu de Juda. Donc, on peut dire que on parle de Judéens dans la Torah. Mais dans la première fois où le mot Yehudi apparaît pour définir quelqu'un qui vient pas de la tribu de Judée, mais qui fait partie d'un collectif, c'est-à-dire le mot Yehudi dans le sens où nous on l'entendrait tel que juif faisant partie de ce collectif-là. Effectivement, c'est pour parler de Mordechai, dont on nous dit bien qu'il vient de la tribu de Benjamin. Donc c'est pas un membre de la tribu de Juda, mais pourtant il est constamment appelé à Yehudi. Et donc ce mot juif apparaît dans l'exil et dit quelque chose de la condition de ce peuple qui n'est plus sur sa terre et qui va devoir vivre des épisodes bien souvent douloureux, comme celui du récit d'Esther, et à qui ça pose une question qui est à la fois théologique et extrêmement politique, comme vous l'avez dit.
Alors, le premier juif des textes et de l'histoire, c'est aussi la naissance du premier antisémite moderne, j'ai nommé Haman. Certes, dans le passé, il y eut Pharaon, mais le terme de juif n'est pas présent à cette époque, qui est celle de Moïse et des enfants d'Israël. Qui est Haman? D'où vient-il? Les maîtres du Talmud et du Midrash, dont vous approfondissez les analyses, le font remonter à différents personnages bibliques qui offrent quelques explications sur la psychologie du personnage. Delphine Horviller.
Oui, Haman, il apparaît presque simultanément avec Mordechai, en tout cas un chapitre plus loin. On a l'impression qu'à l'instant où le juif est créé, l'antisémite fait lui aussi son apparition sous les traits d'Haman, qui va avoir des revendications et un discours qui résonne comme quelque chose de très moderne. C'est troublant quand on lit pourquoi Haman en veut aux juifs. Il va voir Assuérus, le roi perse de l'époque, et lui dit « mais il y a un peuple dans ton royaume qui est comme les autres mais pas comme les autres, qui a des lois à lui mais qui vit au milieu de nous ». Donc il accuse les juifs de ce dont on les a toujours accusés. D'être comme les autres, mais pas comme les autres à la fois, d'être à la fois le même et l'autre. Et les rabbins se livrent nos sages se livrent comme à une enquête intergénérationnelle pour essayer de comprendre d'où vient la haine d'Aman. Alors ils nous disent, attention, Aman vient de Agag, c'est un Agagi, donc il est descendant d'un certain dirigeant qui dirigeait le peuple d'Amalek. Agag, il est connu pour un autre épisode biblique parce qu'il s'oppose dans un autre épisode biblique au roi Shaoul, qui lui-même est un ancêtre de Mordechai. Donc on comprend que dans la Megillah d'Esther, dans le rouleau d'Esther, se rejoue quelques générations plus tard un combat qui a déjà eu lieu et qui s'est pas bien passé entre le roi Shaoul et le peuple des Amalkites. Et on comprend que la haine d'Aman, elle a pas surgi de nulle part. En fait, elle est comme héritée et elle vient même d'un peu plus loin, parce que les Amalkites, qui sont-ils? Ils descendent d'Amalek. Et Amalek est connu comme étant une sorte d'archétype pour les rabbins du vilain, du méchant de l'histoire, de celui qui nous a attaqué de façon lâche alors qu'on sortait d'Égypte et qui a attaqué les plus faibles dans ce peuple, des esclaves en train d'être libérés. Et donc, on considère que Amalek, c'est le méchant, le vilain qui ressurgit, qui se réincarne comme un phénix qui renaît de ses cendres à plein de générations.
Vous voulez dire qu'il y a une haine qui est héritée stable ou hérité ou qui se transmet, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'en sortir de cette haine antisémite qui surgit exactement en même temps que la naissance du mot juif.
Oui, c'est comme si effectivement il fallait, les rabbins nous mettaient en garde, nous disaient ça reviendra tout le temps, ça prendra d'autres noms, on parlait de noms il y a un instant, ça prendra d'autres formes, ça s'habillera et ça se parera d'autres vêtements, mais ça reviendra parce que c'est quelque chose qui se transmet. Alors attention, ils sont pas en train de dire que c'est une maladie génétique, qu'il y aurait dans les familles une pathologie antisémite qui se transmettrait, mais ils identifient comme des conditions, presque des conditions de politique ou de société qui permettent que ça ressurgisse en nous disant « attention, ça reviendra, mais tu as peut-être les moyens de t'y préparer ou en tout cas de transmettre aux générations suivantes des outils particuliers pour des moments où eux aussi y feront face ».
C'est assez fataliste. Ça s'oppose un petit peu à une autre opinion rabbinique qui dit En Mazal le Israël. Il n'y a pas de destin pour Israël. On n'est pas, l'histoire n'est pas écrite à l'avance. Ça me semble contradictoire, mais en même temps, c'est une réalité. Est-ce que cette réalité est définitive? Vous semblez le dire.
En fait, peut-être que quand on dit En Mazal le Israël, on veut justement dire qu'il est d'autres personnes pour qui il y a une fatalité et qu'il y a quelque chose qui va ressurgir justement au cœur de l'humanité qui, elle, sera frappée encore et encore par ce mal, par cette sorte, finalement, qu'est-ce que c'est que cet antisémitisme, en extrapolant, voilà, c'est sans doute une sorte d'allergie à l'autre qui va surgir encore et encore, on parle d'altérophilie, mais l'antisémitisme, c'est une sorte d'altérophobie, d'une certaine manière, une peur de l'autre qui va surgir encore et encore.
Alors, vous parlez du mot antisémite, je voudrais y revenir. Antisémite et antisémitisme, ce sont des mots récents. Ils datent du 19e siècle. On le doit, selon certains, à l'intellectuel juif autrichien Maurice Steinschneider en 1860, ou selon d'autres, au journaliste allemand Wilhelm Marr lors de la création de la Ligue antisémite en 1879. J'aimerais que nous revenions au texte hébreu du livre d'Esther et au terme qu'il utilise pour définir cette haine du juif. Aman est désigné comme Tzorer Ayoudim, littéralement oppresseur des juifs. Je pense, rabbin Delphine Orville, que l'analyse des différents sens de cette racine tzorer nous donnera des pistes intéressantes pour comprendre les mécanismes divers de l'antisémitisme. Un verbe qui signifie d'abord le fait de contenir. Je pense au verset de Job, chapitre 26, verset 8, ou celui de Osée, chapitre 4, verset 19. On pourrait traduire dans ce verset « qui enserre l'eau dans les nuages et le vent dans les paumes de sa main ». C'est poétique et pas nécessairement négatif. Comment cela résonne pour vous quant à la question de l'antisémitisme, rabbin Delphine Orwiller?
Effectivement, cette racine, elle est incroyablement riche et passionnante, cette racine Litzror ou Tzorer. Moi, elle me renvoie d'abord tout de suite au nom de l'Égypte elle-même, Mitzrayim. C'est cette idée que l'Égypte, c'est le lieu où on est écrasé, oppressé. Donc, il y a l'idée que il y a dans l'antisémitisme une volonté d'écraser l'autre, de le presser comme un pressoir. Mais comme vous le dites, ce mot-là, il n'est pas forcément négatif. Par exemple, l'autre association qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est lorsque quelqu'un de cher nous quitte, on a cette phrase en hébreu, on dit « puisse son âme être tsrura, betsror achaim, être tissée ».
Enveloppé,
cousu. Enfin, il y a quelque chose de pratiquement comme des fils qui sont liés de façon si serrée qu'on peut pas les détricoter. Quelque chose comme ça. Donc, on aspire à ce que le souvenir de nos proches soit complètement tissé, collé à nos existences. Donc, le fait de presser quelqu'un, on peut se faire avec amour d'une certaine manière, comme avec jalousie, haine. Et c'est exactement ce qui est en jeu, semble-t-il, dans la haine antisémite. Alors, effectivement. Dans mon livre, je m'intéresse à ce qui est un des ressorts, à mon sens, de l'antisémitisme, c'est-à-dire le fait que bien souvent, dans la rhétorique antisémite, on reproche aux Juifs de pas vouloir faire un avec vous, de pas vouloir faire partie d'un groupe indifférencié. On dit souvent des Juifs, mais qui sont ces gens-là, qui vivent pas tout à fait comme nous, ou qui se marient entre eux, ou qui restent un peu à part. Et le particularisme juif, c'est-à-dire l'idée que ils veulent pas faire un, ils veulent pas faire indifférencié avec nous, est précisément un des moteurs de la haine qui s'empare de l'esprit antisémite. Et effectivement, c'est comme si l'antisémite, quand il est tsorer, pour reprendre ce mot-là, essaie d'écraser. Vous utilisiez cette image du verset d'écraser l'eau entre les mains.
Moi, je voyais plus, mais ça va exactement dans le sens de ce que vous dites à l'instant, c'est-à-dire que c'est une réflexion sur presque, on pourrait dire, une phénoménologie du nuage. Qu'est-ce qu'un nuage? C'est un ensemble infini de gouttes d'eau qui pourraient exister par elles-mêmes et qui vont exister lorsque le nuage va s'ouvrir, mais dans le nuage, elles forment une unité. Et le texte dit très bien, l'eau est enserrée dans le nuage sans qu'il s'ouvre. Et j'ai l'impression que l'antisémite, comme vous le dites, ne veut pas donner de place aux juifs en tant qu'individus, mais le voit toujours comme un groupe indifférencié.
Oui. Un groupe indifférencié qui, en plus, semble-t-il, le menace lui-même dans sa possibilité de se définir de façon intègre. On accuse constamment les Juifs aussi de créer une porosité dans le monde, finalement de faire couler le nuage, pour utiliser votre métaphore. C'est comme si, à cause du Juif, nos frontières étaient un peu plus poreuses, ils risquaient de nous contaminer ou de faire rentrer de l'étrangeté dans notre monde. Et en fait, bien souvent, l'antisémite semble reprocher aux Juifs de... C'est comme si le Juif l'empêchait de faire tout, de faire un. Alors il y a bien des philosophes qui ont développé cette idée.
De l'empêcher de faire nuage.
De l'empêcher de faire nuage, c'est-à-dire d'avoir une membrane, en fait, d'avoir un corps construit, un corps complet, quelque chose d'intègre dans sa définition identitaire. Et on voit bien comment ça résonne avec des problématiques politiques aujourd'hui. À chaque fois qu'une nation ou un individu est tenté de se définir d'une façon hermétique dans son identité, eh bien le juif devient le nom de ce qui l'empêche d'avoir des frontières, en fait, de ce qui l'empêche de faire tout et de faire un, de ce qui l'empêche de faire ce qu'on appellerait en hébreu le shalom, au sens du complet, de l'intègre et du plein.
On me dit que des juifs se sont glissés dans la salle.
On pouvait rester, hein.
N'empêche qu'on ne m'ôtera pas de l'idée que pendant la dernière guerre mondiale, de nombreux juifs ont eu une attitude carrément hostile à l'égard du régime nazi. Il est vrai que les Allemands, de leur côté, ne cachaient pas une certaine antipathie à l'égard des Juifs. Mais enfin, ça n'était pas une raison pour exacerber cette antipathie en arborant une étoile à sa veste pour montrer qu'on n'est pas n'importe qui. Qu'on est le peuple élu. Et pourquoi j'irais pointer au vélodrome d'hiver? Et qu'est-ce que c'est que ces wagons sans banquette? Et j'irai aux douches si je veux. Quelle suffisance, hein? Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Je n'ai rien contre ces gens-là. Bien au contraire. Je suis fier d'être citoyen de ce beau pays de France où les juifs courent toujours. Je me méfie des rumeurs, vous savez. Quand on me dit que si les juifs allaient en si grand nombre à Auschwitz, c'est parce que c'était gratuit, je pouffe. C'est pas toujours évident de... Non, c'est pas toujours évident de reconnaître comme ça, du premier coup d'œil, un juif d'un antisémite. Hein? Ben oui. La guerre encore, du temps de mes parents, on reconnaissait facilement les juifs. Ils avaient les lobes des oreilles pendants, les doigts et le nez crochus, et la bite à col roulé. Mais de nos jours, vous comprenez bien que ces gens-là, ils se font tous raccourcir le nom et raboter le pif par les as de la chirurgie esthétique. Alors on les reconnaît plus. Regardez Jean-Marie Le Pen-Hovichstein, on dirait un breton.
Pierre Desproges, un sketch célèbre qui nous permet d'aborder différemment ce problème grave et complexe qu'est l'antisémitisme. Un mot qu'il ne faut pas galvauder sous peine d'en perdre la possibilité, comme vous le dites, non pas d'en venir à bout, mais de se donner les moyens de s'en prémunir. L'humour, sa place et ses limites, Rabbin Horwiller, quand on vient d'entendre ce sketch.
Oui, et puis je crois que c'est là où on se rend compte de la force du temps dans lequel les mots sont énoncés. C'est-à-dire qu'on sait dans quel contexte Pierre Desproges écrit ce sketch. Et effectivement, on est tous amenés à se demander est-ce qu'on pourrait l'écrire aujourd'hui. Entre-temps, bien des choses se sont passées. Et on sait qu'il y a eu des passages à l'acte, des verbalisations antisémites qui ont amené à des assassinats antisémites. Et bien sûr, la réalité est différente. Mais je crois que Pierre Desproges, il nous donne là des clés qui en fait ont été des clés des rabbins tout au long de l'histoire. Il suffit de se pencher sur la place de l'humour juif que vous maîtrisez formidablement, ce rôle qu'a joué l'humour juif comme un outil incroyable de résilience, parce que finalement, de très nombreuses blagues juives, si elles n'étaient pas racontées par les juifs, seraient perçues comme des blagues dites antisémites, enfin une capacité de retourner les clichés dont on nous accuse contre nous-mêmes. Le nombre de blagues blagues juives qui plaisantent du rapport à l'argent ou d'une certaine filouterie juive, on ne peut pas les compter. Et puis le premier texte qui raconte ça, c'est celui qui nous réunit aujourd'hui, c'est quand même le rouleau d'Esther. C'est extraordinaire de penser que ce texte, où il est question d'une menace d'anéantissement et de génocide, une menace antisémite avant l'heure et biblique, eh bien, est le texte qu'on raconte alors qu'on est maquillé, qu'on fête un carnaval et qu'on est costumé et qu'on est capable d'en rire, mais d'en rire incroyablement. C'est-à-dire qu'au lieu de raconter cette histoire comme une tragédie, ben nos sages, ils nous disent « Sois capable de raconter cette histoire tragique sur le mode d'une comédie ».
Mais pourquoi l'humour va être la rédemption de cet antisémitisme, au moins pour s'en prémunir ?
Moi, je crois qu'il y a dans l'humour, mais on pourrait dire qu'il y a dans l'exégèse aussi, tout simplement, une capacité à dire à celui qui écoute ce que tu entends peut être entendu autrement. Mmh. Et en fait, parce que ce que je dis et ce qui arrive à tes oreilles n'est pas nécessairement la même chose, et qu'il y a ce décalage de sens possible, et qu'il y a capacité de dire et d'entendre autrement, en fait, on introduit tout à coup dans une situation réduite à une pauvreté, à un manque de complexité, qui est bien souvent d'ailleurs, dans le contexte antisémite, on perçoit souvent à quel point les mots sont pauvres, la compréhension est pauvre. On voit aujourd'hui à quel point, par exemple, les théories du complot, on le vend en poupe, tout ce qui dans nos vies simplifie le sens des mots jusqu'à l'extrême, ne laisse pas de place à l'implicite ou au deuxième sens. Eh ben, l'humour, de façon très efficace, anéantit ça pour créer un espace où tout à coup on retrouve d'autres dimensions qui permettent d'autres sens et qui donc introduisent, moi je dirais simplement, de l'oxygène dans le débat.
Comme dit le texte, Dieu a parlé une fois, j'ai entendu deux paroles. Cette capacité, effectivement, comme vous dites, et vous le dites très bien dans votre livre, il y a toujours dans les mots qui sont prononcés un reste à dire.
Oui, quelque chose qui pourrait encore parler et qui pourrait parler autrement à la génération suivante. Et l'humour juif se construit de ça en permanence. Il y a une blague que vous m'avez racontée un jour. Je peux la raconter
maintenant.
Allez-y,
je me souviens
que
pas.
Je cite très souvent, parce que pour moi, c'est une blague qui est peut-être une blague très, très juive. C'est deux juifs qui sont devant un bain public. Et l'un dit à l'autre, est-ce que t'as pris un bain? Et l'autre lui répond, pourquoi? Il en manque un.
Oui.
Et cette blague que j'ai entendue de vous, en réalité.
Oui, qui est de Freud, en fait.
Ah.
Voilà. De Freud qui est dans son livre sur le vitz et le rapport avec l'inconscient, mais qui dit justement, par rapport au jeu de mots, au jeu d'esprit, exactement ce que vous proposez, c'est-à-dire que dans un vitz, on dit une parole, mais il y a deux choses à entendre. Mmh. Et donc cet espace, cet air, cet oxygène que vous venez de signaler. Alors moi, je voudrais revenir encore au mot de Sorer, qui, dans le texte d'Esther, désigne Aman comme l'archétype de l'antisémite. Nous avons vu un premier sens avec l'image du nuage. Nous avons évoqué le sens d'enserré que vous avez commenté. Mais le premier sens, celui que nous offre la première occurrence biblique, est intéressant car il introduit une dimension sexuelle. Je vous cite le verset, c'est dans le Lévitique 18:18. Tu ne prendras pas la sœur de ta femme pour l'offenser, pour rendre ta sœur rivale et pour découvrir sa nudité. Les traducteurs hésitent et proposent différentes traductions. Qu'est-ce que cela vous inspire, ce rapport entre sexualité et antisémitisme? On a l'impression qu'ils forment un couple qu'on ne peut ignorer, Rabbin Enfileur.
Effectivement, c'est assez surprenant de voir que cette première occurrence du mot, elle surgit dans ce texte célèbre qu'on lit à Yom Kippour, qu'on appelle celui des interdits sexuels, où on dit qu'il est interdit de découvrir la nudité d'une femme et de sa sœur. Et ce mot, l'itzror, on peine à le traduire dans le texte, comme s'il s'agissait là d'une affliction particulière. Mais en rapprochant ce terme d'une problématique d'ordre sexuel, on est de retour pleinement à quelque chose qui a été une constante de l'histoire. C'est que tout au long de l'histoire, on a accusé de façon troublante les juifs et les femmes de la même chose. On a reproché aux juifs d'être hystériques et lascifs et d'aimer l'argent, d'aimer la proximité du pouvoir et d'être des manipulateurs. Et mot pour mot, on peut reprendre tous ces arguments dans les arguments de la misogynie traditionnelle. C'est exactement ce qu'on reproche aux femmes et ça a été vrai à toutes les époques, parfois de façon, à vrai dire, grotesque. Vous le savez sans doute, au Moyen-Âge, on pensait par exemple que les hommes juifs avaient des menstruations tous les mois. Quand Léon Blum arrive au pouvoir dans les années 30, on lui reproche d'avoir une voix de fifi, de mamzelle. À toutes les époques, c'est vrai, les juifs et les femmes sont mis dans la même catégorie. Et c'est pas vraiment surprenant parce que le féminin et le juif, d'une certaine manière, incarnent dans un certain schéma mental l'autre et le même à la fois, celui qui me ressemble beaucoup mais qui n'est pas du tout comme moi. Et puis, il incarne, pour le dire très concrètement...
Donc, il fait peur.
Il fait peur. Il me renvoie à ma propre altérité. Parce qu'il est l'autre face à moi, il me renvoie à l'autre qui est en moi, au fait qu'en moi-même, il y a quelque chose qui relève de l'autre. Et ça, cet autre en moi, c'est ce qu'on pourrait appeler simplement la faille, le trou qui est renvoyé, bien entendu, à la question du féminin. C'est-à-dire quelque chose de l'ordre de l'incomplétude, de l'ouvert, du poreux dont nous parlions tout à l'heure. Voilà, le juif et la femme sont toujours accusés d'introduire du trou dans le système, du poreux, une sorte de faillite, encore une fois, de ma frontière, de mes membranes, quelque chose qui va menacer mon intégrité. Et donc, on va toujours accuser les femmes et les juifs de la même chose. On peut même y ajouter un autre élément théologique, qui est celui de l'origine. On pense tous à ce tableau, l'origine du monde, où on voit le sexe d'une femme. Et en réalité, je pense qu'il y a, dans un élément d'une rhétorique antisémite, aussi un rapport au judaïsme comme étant un problème avec ses origines. Comment gérer et accepter le fait que théologiquement, le judaïsme surgit d'abord, et quel rapport vais-je avoir à ce premier né, à celui qui m'a précédé, à ce premier arrivé, c'est-à-dire à mon origine?
Alors vous parlez de l'origine du monde de Courbet, vous parlez du trou, c'est un langage éminemment lacanien, mais je pense que c'est une très belle référence, parce que cela renvoie aussi à la question du nom. Et j'ai vu dans le verset des Proverbes au chapitre 30, verset 4, qu'on pouvait aussi citer, il offre le verbe tsorer avec le sens de serrer dans ses mains, comme nous l'avons vu plus haut, mais invite à penser en même temps la question du nom. Ce qui me semble très important dans cette réflexion sur l'antisémitisme, où le mot même d'antisémite est lié à ce nom, Shem, en hébreu.
Oui, avec ce malentendu lexical auquel on assiste aujourd'hui, il y a des gens qui se défendent aujourd'hui d'être antisémites en disant nous sommes des sémites, nous ne pouvons pas être antisémites. Bien entendu, c'est un malentendu dans le sens au moment où ce mot est constitué antisémite, bien entendu, il ne concerne, on est en train de parler que des juifs. Mais c'est intéressant de revenir à l'origine lexicale. Je doute que ceux qui ont forgé ce terme antisémite ont vraiment pensé à ce personnage de Shem, fils de Noé. Mais rien nous empêche de le faire, nous. Effectivement, nous sommes descendants d'un enfant de Noé qui s'appelle le nom. Et on sait l'importance qu'a cet acte de nommer dans la tradition juive, qui a le sens de la filiation. Dans un des versets, donc dans les proverbes que vous nous invitiez à rechercher, où il est question de Tsarar Maim, où il est question de ses eaux enserrées, le verset se termine de la manière suivante, Mashmo ou Mashem Beno Kiteda, quel est son nom et quel est le nom de son fils que tu connaîtras. Donc il est question d'une problématique de filiation. Et là encore, c'est troublant et c'est intéressant parce que bien souvent, ce que les antisémites reprochent aux juifs, c'est d'incarner la filiation. Qui sont ces gens qui ont l'air d'être tellement soudés les uns avec les autres? Qu'est-ce que c'est que cette solidarité juive, ce lien si fort entre les générations? Et en fait, il y a souvent dans l'antisémitisme une sorte d'envie ou de jalousie de l'appartenance que le juif incarne. Le juif semble incarner confortablement l'enchaînement des générations. Et quiconque, à un moment donné, se sent menacé dans sa chaîne de transmission, dans son appartenance à un collectif, va peut-être être tenté d'appeler juif ce qui l'empêche de se sentir le fils ou le père de quelqu'un.
Alors, ça empêche, et en même temps, je pensais à l'autre sens. On parlait tout à l'heure avec l'humour de double sens d'un mot. Le mot Shem veut dire le nom, mais prononcé différemment, il se lit Sham, là-bas, qui veut dire là-bas, c'est-à-dire qu'il se dit ailleurs. Vous l'avez évoqué au début de l'émission à propos d'Abraham, à propos de Abraham l'Hébreu, celui qui vient de Ur, mais qui va ailleurs, de Israël qui va ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de non-fixité, de voyage permanent qui fait peur, et l'anti-Shem, l'anti-Sem, l'anti-non est aussi un anti-Sham, un anti-Samite qui a peur de la nécessité peut-être de toujours se construire, de s'inventer, de voyager ailleurs et autrement. Rabin Horwiller.
Oui, effectivement, si on comprend tous les noms que se donnent les Juifs, que ce soit le nom hébreu, le nom sémite ou le nom d'Israël, comme étant le nom de quelqu'un qui est qui il est, parce qu'il n'est plus là où il était. C'est-à-dire que mon nom dit que je n'ai pas encore dit quel était mon nom. C'est quand même incroyable comme définition de soi. Mon nom dit que j'ai pas fini de dire qui je suis, donc je vous ai pas encore dit mon nom, et c'est ça mon nom. Et on comprend que cette définition casse-tête, en réalité, elle puisse poser problème à quiconque a envie de se définir dans la fixité, a envie de dire « voilà qui je suis, un point, c'est tout ». Et il y a bien des personnages dans la Bible qui souvent d'ailleurs sont les ennemis de la famille ou de notre peuple, qui raconte cette histoire. Moi, je pense bien sûr à Ésaü, par exemple. Ésaü, il naît, le frère jumeau de Jacob, eh bien, il naît poilu. C'est-à-dire qu'il naît, ça peut paraître un détail absurde, mais il naît couvert de poils, c'est-à-dire déjà fait, comme déjà pubère.
Assouille, dit Rachid.
Voilà, c'est la racine, il est déjà fait. Mmh. Et donc, comme il est déjà fait, Ésaü vous dit « voilà qui je suis et voilà qui je serai toujours. Rien en moi ne va changer. » C'est comme ça. Et voilà que surgit son frère Jacob, qui lui s'appelle au futur, et il s'appelle celui qui talonne. C'est-à-dire, en fait, son frère s'appelle à suivre. Trois petits points. Donc vous avez deux frères, un qui dit « j'ai fini d'être », et l'autre qui dit « je vous ai pas encore dit qui j'étais ». Et on comprend que c'est difficile, pour celui qui a fini de dire son identité, d'accepter qu'un autre dise par son nom qu'il n'a pas fini d'être.
Merci beaucoup, Rabbin Delphine Horwiller, pour vos propos éclairants et passionnants. Je rappelle le titre de votre livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, un livre à l'écriture fluide et légère pour un sujet grave et complexe, Réflexion sur la question antisémite, paru aux éditions Grasset, un livre qui, je sais, a déjà trouvé de très nombreux et attentifs lecteurs. Ken Yirbu, dit-on en hébreu. Merci encore, Rabbin Delphine Horwiller.
Merci à vous.
C'était Talmudique, une émission de Marc-Anna Wachnin et Françoise-Anne Ménager. À la prise de son aujourd'hui, Valérie Lavalard. À la réalisation, comme d'habitude, Dany Journeau, Coltouf, Leitraut. Au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.